Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Presque 20 ans après le passage à l'euro, qui sont les gagnants et les perdants de la monnaie unique? C'est à cette question que tente de répondre une étude produite par un think tank allemand qui vient d'être publiée. Alors selon les auteurs, les Français auraient perdu 56 000 euros entre 1999 et 2017, c'est beaucoup. Les Allemands et les Néerlandais en auraient, eux, gagné plus de 20 000. Comment expliquer ces chiffres et comment mesurer l'impact du passage à l'euro sur le porte-monnaie des Européens? Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE. Que dit alors cette étude?
Alors, que dit cette étude? Cette étude, elle vise à montrer quels ont été les effets de l'euro sur les différentes économies de la zone euro. Et c'est vrai que la conclusion, qui est extrêmement discutable, hein, en tout cas, montre qu'il y a des pays qui sont gagnants au passage à l'euro. Hein. En tête, c'est l'Allemagne. Derrière, on aurait les Pays-Bas. Et les grands perdants seraient la France et l'Italie. Voilà ce que dit globalement cette étude.
Mais alors, qu'est-ce que ça signifie 56 000 euros, par exemple, de perte pour les Français? Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu 56 000 euros de pouvoir d'achat entre 1999 et 2007? Comment
il... Alors, c'est comme ça qu'il faudrait l'interpréter. C'est, en tout cas, c'est ce que vise l'étude en disant, à partir d'un indicateur assez compliqué, hein, qui se base sur les PIB des autres pays, dire quelle aurait été la trajectoire de la France si on n'avait pas été dans l'euro. Donc ça veut dire établir un scénario qui n'existe pas. Hein. Mmh. Et c'est là la complexité de l'exercice. Et arrive à la conclusion de 56 000 euros de pertes cumulées de niveau de vie par habitant depuis 1999, donc sur 20 ans. Donc ce qui est colossal, hein, globalement.
Ah oui, parce que c'est...
Du coup... Ce qui est aussi contestable.
Alors, effectivement, on a affaire à une étude contrefactuelle. Néanmoins, ça n'est pas une bonne justification en économie, hein, Mathieu Plane. Mais la sensation que l'on a, et, en tout cas quand on fait ses courses, c'est qu'on a perdu beaucoup de pouvoir d'achat depuis le passage à l'euro. Et donc, on est en quelque sorte convaincu que cette étude dit vrai.
Alors, il faut être très prudent, c'est-à-dire que, bien sûr, l'euro a posé et pose encore un certain nombre de problèmes aux économies. De là, arriver à cette conclusion sur la base de cette étude, hein, c'est extrêmement contestable. Hein. Alors, la méthode est intéressante, mais très fragile. C'est-à-dire qu'elle se base sur la composition des PIB des autres pays, et donc supposer que la trajectoire de la France aurait suivi une composition du PIB, par exemple la France établie sur le PIB des États-Unis et de l'Australie.
Parce que... Oui, alors c'est ça qui est étonnant. Donc il faut rappeler, comme vous l'avez fait Mathieu Plane, que c'est une étude contrefactuelle.
Oui.
Donc on essaye de voir ce qui se serait passé si...
Exactement.
Et alors là, c'est pourquoi prendre l'Australie? Parce que a priori, c'est pas un pays complètement
non, tout à
proche
fait.
De la France.
Non, alors c'est pour ça qu'il faut le prendre comme une étude purement statistique. Et le problème, c'est qu'elle est politisée aujourd'hui, cette étude. Elle est intéressante parce qu'elle utilise une méthode. Cette méthode-là, effectivement, elle vise juste à dire, voilà, comment on pourrait retracer les évolutions du PIB de la France et des différents pays de la zone euro à partir des PIB des autres pays. Et on fait un pot pourri et donc on va retenir une pondération. Et donc là, on a 50% d'Australie pour la France et 50% de Royaume-Uni. Typiquement, la Grèce, eux, vont avoir les Barbades comme référence. 40%, c'est des Barbades. Donc, effectivement, ça aurait pu marcher, cette évolution entre 80 et 98, même si, quand même, il y a des écarts, hein. Faut pas croire que c'est parfait, le contrefactuel, déjà, sur le passé. Et c'est imaginer que, du coup, on projette sur le futur ces évolutions-là et dire, voilà, l'écart s'explique par l'euro. Mais attention, parce que c'est pas parce que ça a pu marcher un peu sur le passé que, en le projetant, ça explique vraiment les différences liées à l'euro.
Alors, c'est une étude qui a été très critiqué, notamment en Allemagne, mais pas uniquement. Ouais. On doute beaucoup de ces résultats. Et cependant, la morale, en quelque sorte, de cette étude est la suivante. Si tous les pays s'en étaient tenus aux règles de Maastricht, ils auraient tous profité de l'euro. Donc c'est une étude qui, finalement...
Ouais, c'est très dangereux de dire ça.
Pourquoi?
C'est très dangereux parce qu'on voit d'abord, on part d'une étude qui est vraiment purement statistique. Il n'y a pas d'analyse macroéconomique derrière, il n'y a pas de modèle complexe. Hein. C'est vraiment quelque chose de purement statistique et on va en déduire des recommandations de politique économique. Mais alors, on ne peut pas faire des choses comme ça.
Il faut que vous nous expliquiez
pourquoi.
On ne
peut pas faire des choses comme ça. Parce
Quelle est
ça
la différence entre une étude statistique et un modèle?
Un modèle va justement regarder toutes les interférences qu'il peut y avoir entre justement l'évolution des prix relatifs, la compétitivité, les taux d'intérêt... les dettes publiques, les déficits, l'ensemble, les taux de change, le taux de change de l'euro. Et donc,
on va reconstruire une économie, alors, de manière simplifiée, mais on va la reconstruire à l'aide de modèles mathématiques.
Voilà. Et là, on peut essayer d'établir un contrefactuel. Mais qui est très compliqué à faire.
Avec
parce qu'il
n'existe
pas. Ce contrefactuel, on le connaît pas. C'est toute la difficulté. Et donc là, on a quelque chose d'extrêmement simple, en fait, dans la méthodologie. Et on voit que ces écarts-là, on dit, bah voilà, enfin en tout cas cette étude dit, c'est l'euro. Et donc, parce que l'Allemagne est plutôt en tête et que l'Italie et la France sont en bas, on va dire, bah voilà, en fait c'est parce que l'Allemagne a suivi les règles budgétaires et que l'Italie et la France sont plutôt en dehors des clous budgétaires. Et donc du coup, c'est ce qui expliquerait les différences. Mais sauf que c'est totalement faux de dire ça, parce que d'une part, la méthode statistique est contestable, et deuxièmement, les interactions sont beaucoup plus complexes que ça en économie.
Donc c'est une simplification et l'utilisation d'un outil statistique avec des rapprochements étonnants. On a dit France-Australie, il y a aussi les Barbades qui serviraient de modèle au Portugal, ce qui peut sembler là aussi un peu étonnant. Néanmoins, là aussi, on a l'impression, peut-être fausse, Mathieu Plane, vous qui êtes économiste à l'OFCE, que les pays du Sud s'en sortent moins bien que l'Allemagne depuis le passage à l'euro, notamment si on prend un seul indicateur, le taux de chômage. Comment expliquer cela? Est-ce que finalement, ça n'est pas ce que dit, ce que, en quelque sorte, démontre cette étude?
Oui, alors, non, l'étude a cet intérêt, effectivement, de donner... d'essayer de chiffrer en fait les évolutions et regarder quels ont été les impacts de l'euro. Mais une fois de plus, c'est très fragile. C'est vrai que ça met en avant quelque chose qu'on pouvait imaginer, c'est que l'Allemagne sort plutôt gagnante du passage à l'euro et que les pays d'Europe du Sud sont plus en difficulté, avec quand même dans cette étude l'interrogation sur la Grèce, qui s'en sort plutôt bien, qui est troisième, alors que la Grèce est quand même le pays qui a connu le plus de difficultés depuis 2008 et la crise financière, et le taux de chômage aujourd'hui le plus élevé.
Comment vous expliquez ça, justement?
Justement, la fragilité de l'étude. Quand vous avez, pour le coup, je crois que c'est la Grèce qui a 40% des Barbades. Les Barbades et une économie, voilà, imaginons qu'il y a un cyclone ou quelque chose comme ça, l'économie des Barbades peut être extrêmement affectée.
C'est une petite économie.
Toute petite économie, donc très cyclique, qui peut être affectée par énormément de choses, et donc qui n'a rien à voir avec le tissu productif de la Grèce. Et c'est la même chose, effectivement, quand nous on va mettre de l'Australie, du Royaume-Uni, on voit bien qu'on a des évolutions structurelles qui peuvent être très différentes de ces pays-là. L'Allemagne a du Bahreïn, par exemple, aussi. Donc, c'est là où c'est très difficile. Mais tout ça pour dire que, oui, il y a quand même des problématiques sur l'euro, c'est-à-dire que, typiquement, l'euro peut être surévalué, si vous voulez, pour les pays d'Europe du Sud, et ça, on le voit bien.
Encore aujourd'hui ?
Oui, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des pays, notamment, qu'on prenne la Grèce ou l'Espagne, voire l'Italie, l'euro peut être encore des niveaux élevés, et il est plutôt sous-évalué pour l'Allemagne. C'est-à-dire que si on était dans des taux de change flexibles, effectivement, si on avait un euro-marque, bah, l'euro-marque s'apprécierait de façon assez nette, et il s'apprécierait plutôt dans les pays d'Europe du Sud. Donc la convergence, elle est dure en euros, et elle est pas évidente. Et effectivement, elle passe surtout par des ajustements sur les salaires, ce qui pose un certain nombre de difficultés. Mais pour autant, on ne peut pas en déduire aussi facilement des conclusions comme le fait l'étude.
Et alors, sortons de l'étude, Mathieu Plane, qu'est-ce qu'il serait possible de faire pour amoindrir le choc de l'euro, pour faire en sorte que l'euro profite à toutes les économies européennes?
Oui. Alors, la vraie difficulté de l'euro, c'est qu'elle a été basée essentiellement sur des règles budgétaires, et on voit que c'est insuffisant, hein. On voit il y a une incomplétude de l'euro. Il y a la problématique du fédéralisme, c'est-à-dire qu'on a très peu de transferts au sein de la zone euro, alors qu'on a une monnaie unique. Et puis, il n'y a pas de coordination sur les politiques salariales, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, pour qu'on ait un rétablissement ou une vraie convergence au sein de la zone euro, il faudrait que les salaires allemands augmentent de 10% pour qu'on puisse avoir une convergence au sein de la zone euro, ce qui permettrait d'accepter une modération salariale dans les pays d'Europe du Sud.
Merci beaucoup Mathieu Plane. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE. Il est 7h21, suite des matins sur France Culture.